Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Je vous souhaite la bienvenue dans la saison 3, oui déjà, de mon podcast Compresse et Sparadra. Aujourd'hui, je donne la parole à Sébastien, pompier volontaire, qui est venu à mon micro raconter une expérience très émouvante vécue lors d'une de ses récentes interventions. Bonne écoute ! Bonjour Sébastien !
Bonjour Marielle !
Comment vas-tu ?
Bah écoute, très bien, et toi ?
Ça va très bien, je te remercie. Alors, tu ne le sais pas encore, parce qu'on n'en a pas parlé en off, mais tu es le premier épisode de la saison 3 de Compresse et Sparadra. On enregistre au tout début de l'été, et l'épisode sortira tout début septembre. Donc voilà, c'est toi qui démarre cette saison 3.
Eh bien, j'en suis très ravi.
Sébastien, tu vas nous raconter aujourd'hui une très très belle histoire, une histoire touchante, émouvante que tu as vécue pendant l'exercice de ta profession. Et pour démarrer, je te laisse te présenter.
Eh bien, moi je suis donc Sébastien, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Voilà, dans la vie, eh bien, j'exerce dans un cabinet de conseil dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. On fait aussi de la formation dans le domaine. Et en parallèle, j'exerce l'activité de sapeur-pompier volontaire, donc en Île-de-France.
Très bien. Et du coup, c'est de cette deuxième activité qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu de contexte, du coup, sur cette histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, peut-être, spoiler alerte, si vous attendez une anecdote digne des reportages que l'on peut regarder sur la télévision française ou digne des films d'action américains, bon, bah, désolé, ce ne sera pas le cas.
Non, non, mais elle est très, très belle. Moi, je la connais, je peux vous dire que ça va vous plaire.
Alors en fait, pour peut-être planter le contexte, du coup, faut savoir que l'activité de sapeur-pompier volontaire, c'est une activité qui vient en plus de notre travail. C'est une activité qui est extrêmement exigeante, qui est difficile, il faut le dire. On dit que c'est un engagement citoyen et le terme engagement prend tout son sens parce que vraiment ça demande beaucoup de sacrifices sur les plans familiaux, sur le plan professionnel, social aussi. C'est une activité qui demande beaucoup de formation, déjà pour commencer. Moi, j'exerce en Île-de-France. En Île-de-France, les services d'incendie et de secours sont des services mixtes, c'est-à-dire où on va trouver à la fois des pompiers professionnels, des pompiers volontaires. Et je vous mets au défi, si vous croisez des pompiers, de définir, d'essayer de voir lequel est professionnel et lequel est volontaire. Ou si vous rentrez dans une caserne de pompiers, d'essayer de faire la différence, je pense que vous n'y arriverez pas. Parce qu'en Île-de-France, on a une exigence de compétences. Je pense qu'elle est aussi partout ailleurs sur le territoire, mais je connais moins bien les autres régions. En Île-de-France, on veut que les pompiers volontaires aient quasiment le même niveau de compétences que les pompiers professionnels. Donc d'abord, sur le plan de la formation, c'est du coup très exigeant. Il faut savoir qu'un pompier volontaire qui veut débuter l'activité, il va passer par au moins une grosse année de formation. Donc c'est déjà très exigeant d'entrée de jeu. Ce sera des vacances qu'il va falloir prendre pour aller se former. Ce seront des week-ends, beaucoup de week-ends qui seront consommés pour ces formations, sans compter le travail en semaine, le soir, etc. Et puis ça va se poursuivre tout au long de la carrière de sapeur-pompier volontaire, cette formation, parce que on a beaucoup de formations continues dans cette activité. C'est une activité dans laquelle on intervient sur beaucoup de domaines, le secours à la personne, l'incendie, le secours routier, et j'en passe. Et donc on a besoin d'avoir beaucoup de compétences. Ces compétences doivent être réactualisées, recyclées, comme on dit dans notre domaine, très régulièrement. Donc ça demande chaque mois, chaque semaine, beaucoup de travail de ce point de vue-là.
En moyenne, combien d'heures est-ce que tu consacres à ce statut de pompier volontaire à peu près par semaine ?
À peu près par semaine.
Ou par mois, ou je ne sais pas,
alors,
est-ce que tu as une moyenne ?
En Île-de-France, pour te replanter le décor, on assume des gardes postées, c'est-à-dire que dans la majorité des territoires français, les pompiers volontaires exercent en garde d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils ont un bip avec eux, et puis bah, lorsqu'il y a besoin, leur bip sonne, ils vont sur leur centre de secours et ils vont prendre l'intervention. Voilà. Nous, on a beaucoup trop d'interventions pour fonctionner sur ce système là. Et puis il y a les délais de route aussi, c'est à dire qu'en zone rurale par exemple, 2 km bah, ça va pas être la même que faire 2 km en zone très urbaine, et les temps de, de, de transport pour rejoindre son centre de secours sont bien trop importants, sans compter les risques routiers, etc. Donc, en Île-de-France, on fait des gardes postées. Là où je suis, on nous demande d'exercer, enfin, de réaliser environ 2 gardes par semaine. Donc, on travaille sur des rythmes de 7h-19h, 19h-7h ou 7h-7h, donc 12h ou 24h. Moi, pour ma part, j'ai une activité salariée, donc je travaille la journée. Je ne peux pas donc prendre de garde en semaine la journée. Donc, mes gardes, je les réalise la nuit, essentiellement la nuit, de 19h à 7h, entre mes journées de travail et puis sinon sur des périodes de 24h le week-end. Donc, en termes d'activité opérationnelle, c'est environ 24 heures par semaine.
Ah ouais, c'est énorme.
24 à 36 heures par semaine. Après, là-dessus, il y a la formation qui vient se mettre ponctuellement en place. Et puis, les journées de formation aussi qu'on organise le week-end. En général, c'est un week-end tous les 2 mois, on va dire, où on est en formation continue. C'est pour ceux qui n'ont pas de spécialité, parce qu'après on peut avoir aussi certaines spécialités qui nous contraignent à encore plus de formation. Il y a aussi un autre aspect, c'est la condition physique qui prend aussi du temps, qui est chronophage, parce que c'est une activité qui exige une condition physique, et je l'ai dit tout à l'heure, on exige de nous les mêmes niveaux que nos homologues professionnels. Alors, et on a d'ailleurs des tests à passer tous les ans pour être apte à intervenir. Alors, ces tests, il n'y a rien de très difficile. On ne demande pas aux pompiers d'être des sportifs de haut niveau, loin de là. Mais ces tests méritent quand même un entraînement régulier. Et c'est du temps en plus encore, voilà, qu'il faut caler dans son agenda quand on a déjà une vie de famille qui est bien remplie, plus cette activité-là. Donc, c'est une activité qui est très chronophage, qui prend énormément de temps, qui nous contraint à faire beaucoup de sacrifices familiaux, parce que tous ces week-ends qu'on va passer en centre de secours ou en formation, c'est des moments qu'on passe pas avec nos familles. Ces nuits, moi, je passe environ 2 nuits par semaine dans mon centre de secours. C'est 2 nuits où je suis pas chez moi, avec mes enfants, avec ma famille. Il y a l'aspect social aussi qui est parfois compliqué, parce que quand on vous demande de tiens, est-ce que samedi soir tu viens, je t'invite à la maison, non, désolé, je suis de garde, ou ça va être compliqué parce que demain je travaille de bonne heure et puis j'ai pas trop vu ma famille cette semaine, donc je vais peut-être rester à la maison pour profiter d'eux. Ça influe sur plein de facettes de sa vie. Et puis l'activité professionnelle aussi, il faut pas le cacher, je pense. Aujourd'hui, moi, j'en suis plutôt à organiser mon activité professionnelle autour de mon activité de sapeur-pompier, parce qu'elle est prenante. Alors après, je m'en plains pas, parce qu'encore une fois, c'est un engagement, c'est moi qui ai passé la porte, et on m'y a pas forcé, et on force personne à cela. Je veux dire, celui qui demain éprouve des difficultés et ne peut plus assumer cet engagement qui est très important, il retournera dans la vie civile, comme on dit, et puis voilà, c'est pas grave. Alors okay. Voilà, maintenant que le décor est un petit peu planté, moi, ça fait 25 ans, enfin bientôt 25 ans que je suis sapeur-pompier volontaire. J'ai commencé, j'avais 16 ans, donc 25 ans, ça commence à faire du temps.
C'est ce qu'on appelle les JSP, les jeunes sapeurs.
Alors ça, c'est avant 16 ans, moi, à mon époque, ouais, ça y est, je suis vieux, on pouvait commencer beaucoup plus tôt et on pouvait commencer et on démarrait l'activité de pompier volontaire à 16 ans. Aujourd'hui, ils commencent plutôt l'activité de jeune sapeur-pompier vers l'âge de 13-14 ans pour entrer pompier volontaire à l'âge de 18 ans. Au bout de 25 ans d'exercice, on se pose des questions, c'est de plus en plus difficile parce que on a de plus en plus de mal à tenir la condition physique. Forcément, plus on vieillit, plus c'est compliqué. La condition physique, à la fois sur le plan sportif, mais sur le plan de la santé aussi. Je suis dans un centre de secours qui fait environ 4500 interventions par an, donc ça équivaut à une douzaine d'interventions par jour, plus ou moins. Je vous l'ai dit, moi, je prends mes gardes la nuit essentiellement. La nuit, on fait entre 2 et 5 interventions en moyenne. Une intervention, c'est de l'ordre d'une heure, une heure et demie. Donc c'est fatigant, c'est hyper fatigant. Autant quand j'avais 18 ans, 20 ans, je pouvais enchaîner les gardes de nuit sans problème, aller bosser le lendemain, ça ne me posait pas de soucis. Aujourd'hui, on vieillit un petit peu Et lorsque je suis de garde de nuit comme ça, il va bien me falloir 4 jours pour m'en mettre. Et ça, c'est de plus en plus difficile à vivre parce que... alors d'abord, il y a la famille qui est derrière et qui en a un petit peu marre de toutes ces nuits où vous n'êtes pas là, toutes ces journées où vous n'êtes pas là. Il y a le temps aussi, le temps de qualité que vous ne passez pas avec votre famille parce que même quand vous êtes finalement chez vous les jours d'après, vous êtes tellement fatigué que en fait, le temps n'est pas de qualité avec la famille. Pour vous donner l'exemple d'une de mes journées de travail, lorsque je suis de garde, en fait, je me lève le matin, il est 5h, 5h30 pour partir travailler vers 6h, 6h30. Je vais enchaîner ma journée de travail, je vais quitter mon bureau vers 17h30 environ. J'ai à peu près une heure de transport pour rejoindre mon centre de secours. La garde commence à 19h, j'aime bien arriver un petit peu avant, histoire de prendre une douche, de me changer, de changer la casquette et de changer d'univers. Et puis après, la garde va être rythmée par les interventions. La nuit, on peut dormir. Évidemment, on peut dormir, sauf que quand il y a des interventions, on ne dort pas. C'est rare les nuits où on n'a aucune intervention. En général, on en fait au moins 2 ou 3. C'est une intervention, ça dure une heure et demie en moyenne. Sur la nuit, ça fait du temps rogné sur le sommeil. Et puis, quoi qu'on en dise, on dort pas chez nous, on n'est pas dans notre environnement. Donc même si on peut dormir, le sommeil, il est vraiment pas de qualité parce qu'on n'est pas dans notre environnement. Parce que moi, dans mon centre de secours, ce sont des chambres collectives, donc on dort à 3-4 et ça, c'est pas toujours évident non plus. Entre celui qui va jouer avec son téléphone toute la nuit, celui qui va pas réussir à dormir, qui va faire du bruit en se retournant 15 fois dans la nuit.
Celui qui ronfle.
Ah ouais, mais ça c'est terrible. Mais on ronfle tous, c'est ça le pire, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait tout le monde ronfle.
Ouais.
Bon, c'est rigolo comme ça, mais en fait on dort pas qualitativement. Et puis quand on n'a pas d'intervention, on dort pas sur ses deux oreilles parce qu'on a toujours une fonction un peu qui est en alerte. Et voilà, le sommeil n'est pas de qualité. Donc même sans avoir décalé, comme on dit dans notre jargon, sans avoir fait d'intervention, mais en fait, la nuit est fatigante. Je me lève en général, si j'ai pu dormir, vers 6 heures, ce qui me permet de reprendre une douche, de prendre le petit déjeuner, le café avec les collègues, etc. Et puis à 7 heures, on se fait relever. Et à 7 heures, je reprends les transports, ma voiture ou la moto, et je repars travailler. Je retourne à mon bureau et je rentrerai chez moi le soir vers 18h30 environ. Donc ça veut dire que si on fait un peu les calculs, lorsque je suis de garde, ça me fait des journées de 36 heures à peu près. Forcément, vous comprenez que c'est fatigant, c'est difficile. Et puis plus on vieillit, plus ça l'est. Alors encore une fois, je ne me plains pas parce que j'ai choisi cet engagement.
Mais c'est une réalité.
Ouais, c'est une réalité. Et puis c'est pour planter le décor que, au bout de 25 ans, on s'interroge sur le sens de cet engagement. Est-ce que c'est encore, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que. Et puis on a aussi d'autres envies. Des fois, j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec ma famille, du temps de meilleure qualité. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter cette activité, de passer à autre chose, tout simplement? Et puis, jusqu'au jour où, puisque c'est le thème du podcast d'aujourd'hui, où je fais cette intervention. On la raconte maintenant, Marielle ou...
Allez,
c'est parti. Donc, jusqu'au jour où je fais cette intervention, du coup, donc on est en plein après-midi. Moi, je suis affecté au véhicule de secours routier à Langeant-Pont. Peu importe. On est engagé pour un accident de la circulation entre un véhicule et un deux roues. Donc, je suis engagé avec un véhicule de secours routier, l'ambulance de mon centre de secours aussi. Et puis, sera engagé en plus un véhicule infirmier d'un centre de secours à proximité et notre officier de garde ce jour-là. L'intervention est dans la commune pas très loin de mon centre de secours, donc on y est très très rapidement, en moins de 2 minutes on est sur les lieux. Lorsque j'arrive, effectivement, je vois un motard au sol, un scooter qui est coupé en deux, il est littéralement coupé en deux. Je vois un peu plus loin un véhicule dont l'avant est complètement pulvérisé avec une jeune femme qui est complètement en pleurs à côté du véhicule. Mon rôle à ce moment-là, j'interviens avec mon véhicule de secours routier. Je demande à l'équipage de l'ambulance de s'occuper du motard qui est au sol. Je demande à l'équipe de mon véhicule de secours routier de sécuriser le site de l'intervention. En fait, nous, le but, c'est de sécuriser le site pour éviter le suraccident. Donc, ils vont d'abord baliser l'intervention, mettre des cônes, mettre en place un balisage. Ensuite, ils vont assurer la sécurité incendie des véhicules. On va aller vérifier que il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Pendant que tous mes collègues s'affairent à faire ça, moi je fais le tour de la zone d'intervention pour vérifier qu'on soit passé à côté de rien, qu'il ne reste pas des risques persistants, qu'on ait bien pris en compte tous les impliqués de l'accident. Je vais vers la conductrice du véhicule pour essayer d'en savoir un peu plus. Elle est en état de sidération complet, elle pleure, elle est incapable de me parler, de me raconter ce qui se passe. Bon. Il y a des témoins qui ont vu la scène d'accident et qui viennent à moi et qui m'expliquent qu'en fait, c'est tout simplement un refus de priorité à droite du deux roues. Il était en ville, il roulait plutôt vite, il n'a pas vu cette priorité à droite. Le véhicule, lui, s'engageait puisqu'il avait la priorité et ils se sont télescopés. Le choc est extrêmement violent parce que le deux roues roulait rapidement. Je continue donc à faire le tour des différents véhicules pour être sûr qu'encore une fois qu'il n'y a pas de risque qui persisterait sur cette zone. Et en fait, je me rends compte que dans la voiture, il y a deux enfants. À l'arrière du véhicule, on a une petite fille de 4 ans qui est en pleurs totalement. Et à l'avant, on a une jeune fille d'une douzaine d'années qui elle est complètement somnolente. Et je lui pose des questions, elle ne me répond pas vraiment et elle est vraiment très somnolente. Les airbags du véhicule se sont déclenchés et j'ai plus de doute par rapport à ce que les témoins me racontent et ce que je vois des véhicules. Le choc a vraiment été extrêmement violent. Donc j'attends que mon équipage secours routier termine la sécurisation du site et puis je vais leur demander de prendre en charge cette jeune fille de 12 ans que je vais compter comme une victime et que je catégoriserai plus tard en urgence relative. Je fais sortir la petite fille de 4 ans et je l'amène près de sa maman pour qu'elle se rassure, pour qu'elle s'occupe de sa fille. Et je me suis dit que ça va peut-être la sortir de son état de sidération. Et voilà, donc j'emmène la petite fille avec sa maman, je les mets sur le côté. Et puis, moi, j'ai plein de choses à faire à ce moment-là. En l'occurrence, il va falloir que j'aille rendre compte de la situation au centre opérationnel départemental. Il va falloir que je demande des secours supplémentaires parce que lorsque les requérants ont appelé, ils faisaient état d'une victime, donc qui est le motard. Finalement, j'en aurai deux avec la jeune fille, donc il va falloir que je demande une ambulance supplémentaire. Et puis l'équipage de mon ambulance me dira que effectivement le motard il est polytraumatisé, il est dans un état assez grave, on le classera en urgence absolue du coup. Donc il va falloir aussi que je demande une équipe médicale, un SAMU, un SMUR, pour le prendre en charge.
Mais donc, votre rôle, c'est aussi de réévaluer la situation une fois que vous arrivez sur place, parce que les témoins, les passants, etc., eux lancent l'alerte, mais après, vous, en arrivant, il faut presque tout reprendre, faut reprendre la situation.
Oui, c'est ça, c'est notre rôle, en fait. On remonte toute l'histoire de l'accident pour déjà en comprendre son mécanisme, pour comprendre les risques aussi qui vont se présenter à nous, parce que notre travail, c'est de sécuriser avant de prendre en charge. Et puis après, c'est évidemment d'adapter la chaîne de secours pour prendre en charge au mieux les différentes personnes qui en auraient besoin, ou les biens aussi, parce que ça fait aussi partie de notre travail de sécuriser les biens. Donc je fais mon job, je demande des moyens supplémentaires, je rends compte. Et je vois cette petite fille qui est complètement isolée, cette petite fille de 4 ans qui est toujours sur le bord du trottoir. Elle est pas très loin de sa maman, mais sa maman, elle n'arrive pas à sortir de son état de prostration, de sidération. Elle est vraiment prostrée. Et elle est toute seule en train de pleurer. Donc, ma dernière enfant a 4 ans, alors forcément, on se projette un petit peu. J'ai un petit temps mort à ce moment-là sur ce que j'ai à faire sur cette intervention. Donc je vais voir cette petite fille et puis j'essaye de la rassurer, lui dire que voilà, en fait, tout va bien. Le monsieur sur la moto, il a des bobos, mais ça va aller pour lui. Que sa grande sœur, elle a eu très peur, mais que ça va aller aussi. Enfin bon, voilà, on essaye de se mettre à leur niveau et trouver les mots pour la rassurer. Bon, évidemment, moi, il faut que je continue à travailler, donc... La seconde ambulance arrive, l'infirmier arrive, donc il va falloir que j'aille leur faire un point de situation, leur expliquer. Donc, voilà ce que je fais. Je regarde toujours, j'ai toujours un œil sur cet enfant parce que je vois que la maman ne, voilà, elle est pas non plus en état de s'en occuper. Je voudrais pas qu'elle s'en aille. Qu'elle, donc, jette un coup d'œil régulièrement et puis elle est toujours en train de pleurer. Donc, je vais retourner régulièrement la voir comme ça. Je crois que c'est la deuxième fois ou la troisième fois, elle m'a carrément étreint, quoi. Enfin, elle m'a sauté au cou, elle m'a serré fort. Elle était vraiment très, très inquiète de la situation, elle a vraiment eu très peur. Bon, donc je vais pas refuser son étreinte, forcément. Et puis, en bon père de famille, j'essaye de la rassurer. Et puis je la relaisse sur le bas-côté parce que bah, maintenant c'est mon officier de garde qui arrive. Il faut aussi que j'aille voir ce que mes collègues sont en train de faire, s'ils suivent bien les consignes que je leur ai données, si on est toujours en sécurité, etc. Donc je retourne voir mes équipes. L'officier de garde arrive, il faut que je lui rende compte de la situation, ce que je fais. On prend le motard en charge, l'équipe médicale arrive, elle prend le motard en charge, on prend sa grande sœur en charge aussi. Et puis, le papa arrive. Le papa arrive, donc moi, je suis un petit peu soulagé parce que je me suis dit, bah, chouette, il va déjà rassurer son épouse ou sa conjointe, je ne sais pas. Il va pouvoir rassurer son enfant aussi. Donc, voilà, j'ai une charge mentale, on va dire, qui je me sens un peu déchargé de ça. Bon, j'explique au papa ce qui se passe et puis je retourne travailler sur l'accident. Malgré tout, le papa, bah, il essaye de faire comme il peut avec sa conjointe. Il est aussi sollicité par les témoins, par la police. Il faut faire la déclaration d'accident. Donc le pauvre, il a la tête partout. Il ne sait plus où donner de la tête. Et cette petite fille de 4 ans, bah, elle est toujours toute seule sur le bord du trottoir. Personne ne s'occupe d'elle. Alors, je ne juge pas les parents. Hein. Ils ont eu un accident. Non, non. C'est hyper compliqué. Et puis l'accident a quand même été très violent. Donc voilà. Donc je retourne voir cette petite fille à nouveau, j'essaye encore une fois de la rassurer, de la calmer. Bon, et puis voilà, on continue l'intervention à nouveau, on prend en charge sa sœur, on la conditionne dans une des ambulances. Et je réfléchis à cette petite fille, je me dis, mais mince, comment elle se calme pas, c'est quand même terrible. Enfin, on n'a pas envie de voir des enfants tristes comme ça. Je me suis dit, bah, si je l'emmenais voir sa grande sœur, donc je vais la chercher et je l'emmène dans l'ambulance voir sa grande sœur. En fait, je crois qu'elle en avait besoin. Elle était très très inquiète en fait pour sa grande sœur qui allait. Voilà, elle avait probablement un traumatisme crânien par rapport à cet accident. Voilà, les airbags sont déclenchés, le véhicule a vraiment été très fortement
endommagé.
Endommagée, voilà. Je l'emmène voir sa sœur et là, effectivement, je vois son visage qui se déride un petit peu. Elle est contente de voir sa sœur. Elle se fait un gros câlin, elle s'embrasse. La grande sœur la rassure, lui dit que tout va bien, que voilà, elle a eu très peur. Bon. Donc, je laisse faire et je viens récupérer la petite parce que bah, il va falloir qu'on emmène sur l'hôpital sa grande sœur. Donc, je la sors de l'ambulance et je la ramène à son papa. Son visage s'est un peu plus éclairé, mais elle est toujours en train de pleurer, quoi. Donc, à nouveau, je me rabaisse, je me mets à hauteur d'elle, en fait, hein, pour être au même niveau qu'elle. Je continue d'essayer de lui trouver les mots pour la rassurer. À nouveau, elle me saute au cou, elle me serre très fort. Mmh. Alors, c'est émouvant parce que... Parce que encore une fois, bah, je suis papa aussi, ma fille a le même âge, donc on se projette et on n'a pas envie de voir une enfant de 4 ans dans cet état-là. Somme toute, l'intervention pour moi, elle est très banale, des interventions comme ça, on en fait toutes les semaines. Pour moi, il n'y a rien d'impressionnant, c'est vraiment pas une intervention extraordinaire. On continue l'intervention, je laisse la petite fille avec son papa, et puis nous il faut qu'on avance aussi dans notre intervention, il va falloir qu'on libère la circulation, parce que ça avait créé de grosses problématiques de circulation forcément. Je suis en train de faire le point avec l'officier de garde, et là je sens la petite qui vient m'attraper le pantalon, et elle vient me voir, elle me dit « monsieur, monsieur ». Et en fait, elle est allée chercher des fleurs, des champs qu'elle a cueillis à droite, à gauche. Elle me l'étend et elle me dit « Tiens, ça c'est pour toi. Merci d'avoir sauvé ma grande sœur. » Mais avec... elle avait le sourire. Elle avait vraiment le visage... Enfin, elle était contente de faire ça. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et j'étais forcément très ému par, par son geste, parce que, oui, parce que je m'y attendais pas du tout, parce que pour nous, c'est une intervention qui, encore une fois, qui est banale. Mmh. On n'a rien fait d'héroïque sur l'intervention. Sa sœur n'était pas en danger, hein, finalement. Voilà, elle a été bousculée dans l'accident, mais en fait, elle allait très bien. Et voilà, et le fait qu'elle nous remercie d'avoir sauvé sa sœur de cette manière innocente de ses 4 ans, bah c'était, ouais, c'était très émouvant, j'en suis encore très ému aujourd'hui. Et puis bon voilà, on a terminé l'intervention, elle est retournée avec son papa, ça l'a, je sais pas, ça l'a délivré en fait, ou alors elle a réussi à se calmer, c'est peut-être moi qui me fais des films, mais en tout cas après ce passage là, quand elle est venue nous donner ces petites fleurs des champs, bah en fait, elle est redevenue rayonnante comme une petite fille de 4 ans. Mmh. Elle est allée avec son papa et puis finalement, c'est comme, presque comme si de rien s'était passé. Parce que, je dis presque parce que je pense qu'elle s'en souviendra toute sa vie de cet accident forcément. Mmh. Je finis l'intervention et puis j'y pense beaucoup. Et je me dis, mince, il faut quand même pas qu'elle reste sur... parce que sa sœur vient de partir avec l'ambulance en direction de l'hôpital... Et j'ai pas envie qu'elle reste sur une note négative. Je comprends que voilà, ça l'a beaucoup marqué. Nous, on n'a pas le même point de vue parce qu'encore une fois, on voit ça régulièrement. Donc pour nous, c'est banal presque. Et je me dis non, il faut quand même qu'on termine cette intervention avec cette petite fille sur une note positive pour qu'elle garde quelque chose de positif. Elle va s'en rappeler. Et je voulais terminer comme ça. Je savais pas quoi faire. Donc avant de partir, bah, je me dis, écoute, je vais quand même aller la voir, lui dire au revoir et qu'elle a été très forte et voilà, ce que je fais. Donc je vais la voir, elle est avec son papa, je dis, bah, écoute, voilà, ta sœur va à l'hôpital, tout va bien se passer, la voiture est abîmée, c'est pas grave, t'as été très très courageuse, t'as été très forte. Et je sais pas ce qui me prend, bon, j'ai dégrafé mon galon sur ma veste et je lui ai donné, je lui ai dit, bah, écoute, tiens, je te le donne, comme t'as été très 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 courageuse. Peut-être que quand tu seras grande, bah, du coup, la chef des pompiers, ce sera toi plus tard. On s'est fait un gros câlin. Et puis on s'est quitté là-dessus, quoi. Voilà. Le jour où, bah, du coup, tout à l'heure, j'ai expliqué que c'est une activité qui est difficile. On ne fait pas des interventions marquantes tous les jours. Hein. Faut pas rêver. On ne sauve pas des vies tous les jours, comme on le voit dans les films ou dans les reportages. Ça c'est pas vrai. Il y a même des pompiers qui, dans leur carrière, ne feront jamais d'interventions marquantes parce que c'est comme ça. Faut être là au bon endroit, au bon moment. Hein. C'est un peu comme ça. Mmh. Et puis, évidemment, que c'est aussi un peu pour ça qu'on fait cette activité. On a envie d'être reconnu de cette manière, de tout cet investissement. Et finalement, comme quoi, bah, une intervention banale, bah, ça peut changer un peu la vision des choses. En tout cas, moi, bah, ça m'a reboosté pour les 10 ans qui arrivent, je pense. Hein.
Voilà, ce que ça prouve aussi, c'est que c'est pas la gravité de la situation qui crée le souvenir.
Oui, c'est ça, exactement.
Il y a parfois des moments anodins. Alors, est-ce que c'était voilà, l'âge de cette petite qui était le même âge que ta fille? Et puis, peut-être pas, peut-être que son visage, inconsciemment, t'a rappelé le visage de quelqu'un d'autre, ou peut-être pas, mais voilà, des fois on n'explique pas, mais il y a des choses qui nous marquent. Puis elle avait cette maturité à 4 ans de réussir à te faire comprendre par le geste que ce que t'avais fait pour elle et pour sa famille était capital, et je trouve ça magnifique comme histoire.
C'est ça, et puis moi, de mon point de vue, où je suis en pleine... en pleine crise existentielle, on va dire, où je me pose beaucoup de questions sur en fait, quel sens a cette activité, pourquoi je la fais, en fait, parce que, oui, je sacrifie beaucoup ma famille, je sacrifie beaucoup de temps, mais en fait, en échange, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, en échange, j'ai cette petite fille, et ça vaut tout. Oui, ça donne tout le sens à cette activité, en fait.
Mm-mm. Voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard si tu avais ce ressenti peut-être à ce moment-là de dire voilà, personnellement, ce que je vis, c'est un peu difficile en ce moment. Et puis voilà, la vie t'amène une situation comme ça pour te faire mesurer finalement le bienfait de ton travail, de ce que tu fais au quotidien. Et c'est comme un signe du destin, c'est une très très belle histoire.
Voilà, et c'est une histoire qui se termine bien en plus.
Ouais.
Donc que demander de mieux?
C'est vrai. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette histoire? Ça t'a fait prendre conscience de l'importance de ton exercice en tant que pompier volontaire? Est-ce que ça t'a redonné un nouveau souffle? Qu'est-ce que ça a changé?
Ouais, c'est ça, ça a redonné un gros coup de boost, un souffle. Ça redonne du sens. Voilà, ça redonne du sens. Et en fait, ça fait quand même quelques années maintenant que je fais cette activité, et effectivement, on banalise ce qu'on fait, en fait. On banalise trop ce qu'on fait, finalement. Des interventions comme ça, j'en ai fait par paquet de 10. Et voilà, ça ne nous impressionne plus. On y est moins sensible, en fait. Et en fait, on se trompe parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, OK, pour nous, c'est banal, c'est pas impressionnant, c'est pas... voilà, on fait ce genre d'intervention régulièrement, mais n'empêche que pour ces gens, bah, on est quand même super important. Et que si nous, on se rappellera probablement pas d'eux. Alors, dans le cas de cette anecdote, je pense que je m'en rappellerai encore de très longues années. Mais de manière générale, si tu me demandes de me rappeler de l'intervention que j'ai fait il y a 15 jours, j'en suis incapable. Voilà, là-haut, ça fait un reset, je ne saurais pas m'en rappeler. Et peut-être à tort, justement. Et c'est peut-être aussi ce qui fait perdre le sens, enfin en tout cas pour moi, le sens de cette activité, c'est que ça m'a rappelé qu'en fait, oui, même des interventions qui peuvent paraître banales, en fait, elles ont de l'importance pour les gens pour qui on intervient, et ça booste, quoi.
Et ce qui te paraît peut-être banal pour toi, ne l'est peut-être pas pour un autre
oui,
professionnel, l'un de tes collègues ou même un ambulancier ou un urgentiste.
Oui, complètement.
Moi, pour l'avoir vécu, j'ai des patients qui m'ont marqué à vie et que mes collègues ont oublié. Et pourtant, on s'en est occupé à deux, à trois, infirmières, etc. Et voilà, parfois, ça ne s'explique pas, mais il y a des parcours qui nous marquent.
Oui, c'est ça. On n'a pas tous on n'a pas tous le même ressenti. On ne vit pas tous les mêmes choses du même point de vue et avec le même... Le même angle, le même regard, en fait.
C'est ça, ouais.
Et en tout cas, voilà, pour mes collègues, on en a reparlé après de cette intervention. J'en ai reparlé avec l'officier de garde qui était là sur place. Bon, lui, ça l'a pas marqué plus que ça, quoi. En revanche, moi, ça m'a beaucoup ému et ça m'a amené beaucoup de sens. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est que d'une personne à l'autre, on n'a pas le même point de vue selon son expérience, selon son vécu, selon son mood aussi du moment, probablement.
Exactement, ouais. Il y a aussi tout le contexte. Toi, tu étais dans cette période où c'était peut-être un peu délicat pour toi. Peut-être que la même situation un an avant, un an après, t'aurais pas apporté les
totalement.
Mêmes choses.
Totalement.
Merci beaucoup, Sébastien. C'est une très, très belle histoire.
Eh bien, écoute, avec plaisir.
Je suis ravie d'avoir pu te recevoir à mon micro. Alors, Sébastien, maintenant, c'est l'instant promo, parce que je ne suis pas la seule podcasteuse à ce micro, il y a toi aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast qui s'appelle « Santé et sécurité » ?
Oui, donc j'anime également le podcast donc, qui s'appelle « Santé et sécurité », le podcast. On y parle de sécurité civile, de santé et de sécurité au travail. Ce podcast est un petit peu un laboratoire pour moi. On n'a pas vraiment d'ambition sur ce podcast, même si on traite des sujets qui, je pense, sont sérieux, qui peuvent intéresser et qu'on le fait de manière très sérieuse. Mais voilà, je l'ai créé ce podcast dans le cadre de l'organisme de formation dans lequel je travaille. Il fallait qu'on digitalise nos formations, tout simplement. Il fallait qu'on crée du contenu digital. Et ça a été un moyen de se mettre le pied à l'étrier. Moi, je suis fan absolu de podcasts. J'en écoute énormément. Donc, c'était pour moi un vecteur en plus intéressant. Voilà. Donc, on traite de tous ces sujets-là. On essaye d'informer. En fait, l'idée de ce podcast, c'est que en formation, on nous pose plein de questions auxquelles on n'a pas forcément le temps de répondre parce qu'ils sont hors sujet, parce qu'on n'a pas le temps d'y répondre exhaustivement. Donc, l'idée, c'est que nous, on a récupéré ces questions et on essaye d'en faire des épisodes. Donc, d'abord, on renvoie nos apprenants vers le podcast pour qu'ils puissent avoir ces réponses. Et puis, on le met à disposition du public parce que peut-être que ça peut vous intéresser aussi.
C'est génial. Et du coup, je suis bien placée pour le dire, mais ça représente beaucoup de travail. Donc, bravo de rajouter encore cette corde à ton arc et puis de vulgariser
c'est
ça.
C'est beaucoup de travail. On ne se rend pas compte quand on se lance, mais c'est beaucoup
c'est
de travail.
Vrai. Bravo pour tout ça. Et puis, je te remercie encore de m'avoir accordé un petit peu de ton temps pour cet épisode.
Eh bien, merci à toi, Marielle. Bravo pour Compresse et Sparadrap, parce que c'est un super podcast aussi.
C'est adorable,
bonne continuation.
Merci Sébastien, à bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup à Sébastien pour ce partage d'expérience. Si vous pensez que votre histoire a sa place ici, n'hésitez pas à me contacter par mail, mon adresse est en description de chaque épisode, ou via message privé sur Instagram. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.